Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et on le voit le prix, puisque c'est la suspension indéfinie des manœuvres américaines sur la péninsule. Annonce hier du secrétaire d'État à la Défense Mike Pompeo lors d'une visite à Pékin. Les suites du sommet Kim-Trump, suite ou service après-vente. Bonjour Dorian Malovitch.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes chef du service Asie au quotidien La Croix, co-auteur du Monde selon Kim Jong-un. Justement, monde radieux hein, pour lui, puisqu'après le sommet et les gains symboliques pour Kim Jong-un, voici une nouvelle concession américaine à la Corée du Nord. Suspension indéfinie donc des exercices militaires américano-alliés. Pyongyang vient donc de gagner une assurance stratégique supplémentaire. Et plus que la déclaration commune, c'est cette annonce qui a surpris et qui inquiète les partenaires américains, Corée du Sud et surtout le Japon, dont la sécurité dépend des troupes américaines sur place. Mike Pompeo, hier en Corée, donc, a beau assurer que l'essentiel du désarmement, dit-il, devrait être terminé d'ici à 2020, qui en paiera effectivement le prix. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, Dorian Malovitch, c'est un temps de déclaration commune, un temps de justification, un temps de mesures concrètes, finalement, beaucoup de gages américains. On a un peu l'impression que la diplomatie américaine négocie, disons, à l'envers la dénucléarisation de la Corée du Nord.
Écoutez, d'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'un communiqué. Hein. C'est-à-dire que le terme d'accord, en ce qui concerne ce qui a été signé à Singapour, est une grande orientation très globale vers laquelle tout le monde essaye de se diriger. Et on voit que, comme vous l'avez dit, le service après-vente diplomatique américain est parti en Corée du Sud, est parti en Chine pour concrétiser finalement. C'est un peu la réponse du berger à la bergère, parce que on oublie un peu que la Corée du Nord a fait des gestes déjà ces derniers mois. Hein, elle a gelé les essais de missiles, elle a gelé les essais nucléaires, elle a libéré 3 prisonniers américains, elle a eu un sommet intercoréen, et du coup, c'est vrai que la garantie de sécurité de la Corée du Nord par les États-Unis est quand même primordiale. C'est-à-dire, pour avoir encore des progrès de dénucléarisation, que ce soit des démantèlements, que ce soit la fin de sites de tir de missiles, de sites d'essais nucléaires, les Américains devaient encore montrer quelque chose. Et c'est vrai que le fait d'annoncer la suspension indéfinie pendant les négociations, au moins, à mon avis, hein, des manœuvres militaires américano-sud-coréennes, c'est un acte, évidemment, qui prolonge le sommet, qui prolonge l'accord signé. Évidemment, on a beaucoup de marge de manœuvre, on voit qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, et chacun jugera, finalement, petit à petit, ce que l'autre fait, et on va assister, je pense, dans les semaines qui viennent, à, effectivement, des décisions de part et d'autre, qui vont se répondre, et qui vont nourrir, finalement, les prochains sommets qui s'annoncent, parce que on peut rappeler que il y a une invitation de Trump à Kim Jong-un à Washington et une invitation de Kim Jong-un à Donald Trump à Pyongyang. Donc tout ça va scander le rythme des négociations à venir.
Et alors avant de voir qui va en payer le prix en quelque sorte, quand même ça pose une question, cet accord et le rythme même des négociations sur qui en tire les bénéfices. Est-ce qu'il ne faut pas y voir une victoire de cette stratégie chinoise comme l'ont dit les quotidiens chinois, mais à juste titre, gel contre gel, gel des manœuvres militaires, gel d'un côté et gel des essais nucléaires de l'autre, au point qu'on peut se demander si le texte n'avait pas été écrit à l'avance, quasiment.
Alors, écoutez, que la Chine se félicite de l'issue du sommet, ça ne fait aucun doute. C'est évident qu'elle avait déjà proposé l'année dernière, au plus fort des tensions entre Pyongyang et Washington, au moment de l'essai nucléaire, au moment des invectives, le double gel dont vous avez parlé. Aujourd'hui, évidemment, la Chine a dit « moi, je veux que la stabilité dans la région ». Et finalement, elle a dit « voilà, la Corée du Nord a fait un certain nombre de gestes ». Et là, aujourd'hui, le geste américain est bien accueilli, évidemment, par la Chine, qui y voit un progrès dans ses futures relations économiques avec la Corée du Nord et aussi avec la Corée du Sud, parce que tout est lié.
Et mettons qu'il y ait eu, de ce point de vue-là, alors précisément une conversion quand même de Donald Trump par rapport à son attitude d'il y a quelques mois. Dans le texte, ce qui est intéressant aussi, c'est que Mike Pompeo est nommément cité pour négocier avec un haut représentant de la Corée du Nord. Mais qu'est-ce que vous pensez des résultats de son entreprise de réassurance pour l'instant en Corée du Sud? Donc il a vu les ministres de la Défense et des Affaires étrangères japonais et sud-coréens très inquiets, surtout le japonais.
Oui, alors du côté sud-coréen, il faut rappeler qu'effectivement, la Corée du Sud n'a jusqu'à aujourd'hui pas eu vraiment son destin entre ses mains. C'est-à-dire que vraiment, depuis la fin de la guerre, elle a bénéficié du parapluie nucléaire américain, de la protection américaine qui lui a permis de se développer, de la même façon que pour le Japon. D'ailleurs, on sait très bien que c'était la sécurité américaine qui garantissait finalement un équilibre des forces en Asie. Là, aujourd'hui, finalement, on a quand même une double dynamique, parce que la dynamique de rapprochement Corée du Sud-Corée du Nord, elle a démarré dès janvier. Donc, le président sud-coréen, lui, est déterminé à avancer et à ne plus reculer. Je rappelle que hier, il y a eu encore une rencontre de militaires nord-coréens et sud-coréens à la frontière qui se sont engagés à renouer, à rebrancher les communications militaires des deux côtés. Donc, de ce côté-là, c'est ce qu'avaient annoncé d'ailleurs les deux leaders au moment du sommet le 27 avril. Il va y avoir encore de nouvelles rencontres. Si vous voulez, on assiste vraiment à un tourbillon diplomatique qui vous fait tourner la tête parce qu'il y a une accélération sur le dossier nord-coréen. On peut dire quand même que Donald Trump a un peu renversé la table dans tout ça de façon totalement imprévisible, de façon qui déboussole un peu la diplomatie traditionnelle. Mais là, le momentum, comme on dit, mais la dynamique est en marche. Et c'est vrai que là, tout se met en place. Et le Japon, pour revenir à votre question, se sent quelque peu isolé. Mais il y a une rencontre internationale à Oulan-Bator, en Mongolie, aujourd'hui.
C'est ça.
Et qui est en train de vouloir avoir son sommet avec Kim Jong-un pour parler de nucléaire et pour parler surtout des kidnappés japonais.
Et une éventuelle rencontre entre Shinzo Abe et Kim Jong-un. Alors là, les quotidiens japonais diffèrent sur la date. Ça oui. Aussi, ça va arriver cette année, selon vous ?
Je pense que Kim Jong-un a dit à Singapour qu'il n'était pas hostile à une rencontre avec Shinzo Abe. Il a beaucoup à gagner à rencontrer Shinzo Abe. Ça peut être en juillet, ça peut être en septembre. Si c'est en septembre, ça peut être à Vladivostok. Vladivostok, où il y aura une conférence économique régionale, où il y aura Poutine, où il y aura Xi Jinping, où il y aura Kim Jong-un, et il pourrait y avoir Shinzo Abe. Vous vous rendez compte, tout le monde est en train de se rencontrer dans la région. Kim Jong-un a beaucoup à gagner parce que, d'une part, il va demander des compensations pour les destructions de la colonisation. Ça, il ne manquera pas de rappeler aux Japonais tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans de colonisation de 1905 à 45. D'un autre côté, Shinzo Abe, lui, aura le sujet très sensible à négocier des kidnappés japonais qui restent au nombre de 5-6 en Corée du Nord et dont on ne connaît pas le destin. Soit ils sont encore vivants, soit ils sont morts, mais le Japon voudra demander le retour de la dépouille de ses ressortissants japonais. Et ça, au Japon, c'est primordial.
Et justement, de ce point de vue-là, Shinzo Abe va vouloir obtenir cette victoire, de la même manière que tout de même, Moon Jae-in va vouloir obtenir aussi des victoires symboliques, notamment sur peut-être les réunions des familles. Est-ce que lui-même est en train de ne pas donner trop de gages sur l'abandon des exercices militaires contre des mesures de désescalade? C'est ça qu'il est en train de négocier avec la Corée du Nord.
Écoutez, je crois que Moon Jae-in a été un diplomate très habile et il a saisi la balle au bon début janvier. Je crois que, en ce qui concerne les manœuvres militaires, il n'a pas la main vraiment, parce que vous savez, le commandement conjoint des troupes américaines et sud-coréennes sont entre les mains des Américains. C'est quand même un général américain qui prendrait le commandement en cas de guerre. Donc, si vous voulez, les Américains sont quand même déterminants. Et c'est vrai que Moon, finalement, là aussi, lâche du lest, parce que il sait que c'est encore un geste qu'il pourra lui-même utiliser, d'ailleurs, vis-à-vis de relations directes avec la Corée du Nord pour dire « nous sommes sur la voie de la pacification ». En fait, ça va totalement dans l'ordre des choses sud-coréen, tout en sachant qu'elles sont levées indéfiniment jusqu'à ce que les choses peut-être tournent vinaigre. Elles peuvent continuer, si vous voulez, sous d'autres formes, très réduites, géographiquement de façon plus éloignée, oui. Qu'elles soient moins perçues comme des menaces pour la Corée du Nord.
Parce que pour l'instant, oui, c'est vrai, il s'agit de manœuvres pour certaines massives. Il y en a quatre, dont certaines qui mettent en jeu autour de 230 000 soldats, tout compris américains et
exactement.
Sud-coréens. Et de ce point de vue-là, est-ce que ce n'est pas la Chine qui également bénéficie de l'abandon de ces manœuvres qui, sans viser directement la Chine, constitue quand même une pression sur elle?
Exactement. C'est pour ça qu'on avait tendance, certains disaient que la Chine était marginalisée, ce qui était totalement faux, parce que d'abord la Chine est au centre du jeu, je vous rappelle qu'elle a signé l'armistice et que s'il y a traité de paix, la Chine devrait être là, et que effectivement la suspension des manœuvres, ça donne une respiration à la Chine. On négociera peut-être aussi, vous savez, ces fameux radars de missiles antimissiles TAD qui sont installés en Corée du Sud. peut-être qu'ils vont être aussi déboulonnés et qu'on va un peu les éloigner de la Corée du Sud. Donc ça, ça va être un soulagement aussi pour les Chinois. Ce qui rend encore un peu plus de pression, je crois, sur le Japon, qui va être finalement l'allié encore plus important pour les Américains pour contenir l'émergence militaire chinoise dans le Pacifique. C'est-à-dire que s'il y a un retrait de troupes, par exemple, on peut s'attendre à ce que les Américains annoncent une diminution du nombre de troupes américaines en Corée du Sud aussi, et qu'ils vont être rapatriés soit à Guam, soit sur des bases japonaises.
Voilà, véritable tourbillon diplomatique, vous le disiez, Dorian Malovitch, on va suivre ça. Merci en tout cas, on renverra à votre livre « Le monde selon Kim Jong-un » coécrit avec Juliette Morillo.